Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
L'utilisation de l'internet et de l'ordinateur accroît l'efficacité des services et facilite souvent la vie. Alors toutefois, l'utilisation de ces technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, présente aussi des dangers pour la vie privée. Votre nom, photo, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire ou code sont par exemple exigés lorsque vous remplissez un formulaire de demande de visa à une ambassade ou parfois lorsque vous réservez une chambre d'hôtel en ligne. Voilà, c'est vous donner, vous livrez vos données personnelles. Alors, il est difficile de savoir qui sait quoi sur autrui et qui en fait quoi. Ça devient difficile. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui? Pourquoi est-il important aujourd'hui de protéger les données à caractère personnel? Maître Dieudonné Tshibwabwa Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles, à Kinshasa et de Kananga, est notre invité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par données à caractère personnel?
Voilà, il faut comprendre que toute personne doit être identifiable. Alors, quand on parle de données à caractère personnel, ce sont toutes informations qui permettent d'identifier une personne. Par exemple, son nom, ses origines, sa photo, ses empreintes digitales, ses éléments bancaires. Ce sont tous ces éléments, toutes ces informations qui permettent à ce qu'on puisse identifier une personne. Mmh. Et ce sont des données à caractère personnel, mais qui entrent dans la sphère privée d'une personne. Donc, pour parler des données à caractère personnel, c'est une notion qui doit être liée à la vie privée. C'est l'extension de votre vie privée qui se matérialise et qui permet aux personnes autres que vous de pouvoir avoir des informations vous concernant. C'est ça qu'on appelle les données à caractère personnel. Mmh. Mais dans ces données, qu'est-ce qui se passe? Il y a des données qu'on appelle données normales. Votre nom, votre adresse, votre âge. Ce sont des données normales qui ne nécessitent pas beaucoup de difficultés. Oui. Mais nous avons d'un autre côté, ce qu'on appelle des données sensibles, qui vont tellement loin dans votre vie privée, et qui nécessitent, comme les données normales, mais qui nécessitent une plus grande protection.
Alors, un exemple des données sensibles?
Par exemple, votre religion. Par exemple...
L'état sérologique.
Tout à fait. Voilà. Comprenez, oui. Votre ethnie. Vous comprenez, ce sont des données sensibles. Pourquoi on doit connaître votre ethnie? Pourquoi on doit connaître votre religion? Pourquoi on doit connaître votre état de santé? Vous comprenez, ce sont des données qui sont tellement sensibles qu'il faut augmenter le niveau de protection de ces données-là. Et tout à l'heure, vous parliez...
Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, Internet, tout passe par le net. Vous voulez à l'ambassade, on vous demande des données, de transférer vos données personnelles. Vous voulez faire une réservation d'une chambre, vous voulez faire ceci, vous voulez vous enregistrer. Les données circulent à tout moment.
Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes tous surveillés, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le net, vos données sont enregistrées sur un support durable, automatisé. Et directement, vous laissez des traces. Et ces traces peuvent permettre à quiconque qui a des possibilités d'y accéder. Et le grand danger, c'est quoi? C'est qu'avec Internet, ce sont des outils informatiques qui sont en train de traiter nos données. Donc, il faut encadrer cela.
Et il y a un flux énorme des données.
Il y a un grand flux. Vous savez, si vous ouvrez votre boîte mail, je pense que vous recevez généralement des publicités. Est-ce que vous êtes posé la question, comment ont-ils accès à ma boîte mail? Parce que une adresse mail fait partie de votre vie privée. Ce sont aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle des données à caractère personnel. Mais pourquoi vos données circulent? Il faut vous poser la question. Il n'y a pas qu'un aspect...
Il y a des applications espions qui espionnent les gens pendant que vous êtes en ligne.
Ça, c'est autre chose. Mais il faut d'abord réaliser que si les données circulent, après, une des premières missions, c'est un objectif commercial. Les données ont une valeur. lorsque les entreprises se réfèrent aux données à caractère personnel des gens, c'est pour leur faire des offres. Vous comprenez? Donc c'est plus un caractère commercial. Mais à côté de ce caractère commercial, vous en avez maintenant les dangers qui découlent. Parce qu'ils peuvent avoir des personnes de mauvaises intentions qui peuvent utiliser ces données à mauvais escient. D'où il faut encadrer toute cette circulation de nos données à caractère personnel. Pour cela, il est important de mettre en place des dispositions légales, d'avoir une loi qui protège ce qu'on appelle la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Aujourd'hui, personne ne peut plus se soustraire. Nous sommes dans le monde, et Internet est partout. Mmh. Si vous allez au fond du village, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont une connexion Internet, mettons. Toutes nos données à toute personne, à quel que soit, à quel que niveau qu'il soit et où il se trouve, ces données peuvent se retrouver dans la circulation.
Donc, il même faut, au niveau des banques, tout ça.
Partout, les banques, n'en parlons pas. Ça, c'est encore plus, ça, c'est encore beaucoup plus, plus dangereux parce que si vous regardez sur votre carte de banque, vous avez une SIM, n'est-ce pas? Mmh. Et c'est une puce, plutôt, excusez-moi. Et cette puce-là contient des données qui vous concernent. Et parmi ces données, vous avez votre compte bancaire. C'est-à-dire que votre compte bancaire est lié à vous. Et si une personne accède à votre compte bancaire, elle accède à vos données à caractère personnel, elle accède à votre vie privée. Et si cette personne est mal intentionnée, si elle a les moyens qu'il nécessite, elle peut vous faire du mal. Mais, par exemple, en prenant ce qui est dans votre compte, en soustrayant vos fonds. Vous comprenez? Mmh. Donc, tout ça, ce sont des traitements qui sont faits de manière automatisée, mais les gens peuvent, malheureusement, abuser de cela. D'où, il est important de mettre en place une législation qui protège les personnes. Le but ici, c'est de protéger les personnes. Toute personne a droit à la protection. Et surtout, qu'aujourd'hui, toutes nos données se retrouvent sur la place publique. Vous avez parlé des banques. Si vous allez à la banque, qu'est-ce qu'on vous demande? Votre nom, votre adresse,
l'adresse,
votre date de naissance,
numéro de téléphone,
tout.
Voilà.
Mais il faut que la banque, qui est en train de collecter vos données, qu'elle mette en place des mécanismes suffisants de protection et de sécurisation pour que vos données ne se retrouvent pas sur la place publique.
Même dans les hôpitaux aujourd'hui,
c'est encore...
on ne fait plus des fiches dans certains hôpitaux, il n'y a plus des fiches, une fiche manuelle, tout est informatisé.
Et les hôpitaux sont encore plus accentués, parce que vous pouvez être victime, bien vous pouvez être malade. Et cette maladie, vous savez, il y a le secret médical. Et c'est donc la maladie que vous avez, ça reste simplement dans l'enceinte de l'hôpital et dans la conversation entre vous et votre médecin, vous comprenez? Mmh. Vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous êtes malade, que vous avez telle pathologie. Mais imaginez-vous que quand c'est informatisé et qu'il y a un problème et que votre pathologie est mise en place au niveau du public, tout le monde est au courant que X a telle maladie, vous pouvez voir l'impact que cela peut avoir sur votre vie privée. Vous comprenez? Mmh. D'où il est important d'encadrer tout ça. Au niveau de l'Europe et un peu partout dans le monde,
il y a des lois.
Si je prends le cas de la Belgique, il y a une loi de 8 décembre 92 qui a institué ce qu'on appelle une commission vie privée. C'est elle qui encadre tous les organismes qui traitent et qui collectent les données à caractère personnel. Partout dans le monde, il y a des dispositions qui sont prises pour protéger les individus. Comme je dis, tout le monde a droit à la protection de ses données à caractère personnel. Et c'est pour cela qu'il est important que même dans notre pays, qu'il y ait aussi une loi qui protège les gens, qui vous protège, qui nous protège, qui protège vos données.
En Belgique, par exemple, si vos données sont récupérées par des hackers ou par des gens mal intentionnés, qu'est-ce prévoit la loi par rapport à tout cela?
Vous savez, celui qui met en place un système de collecte et de traitement de données doit d'abord faire une déclaration au niveau de la commission vie privée. Et il est responsable. On dit que c'est le responsable du traitement.
Il y a toute une commission.
Il y a toute une commission vie privée qui existe.
Oui.
Qui est mise en place.
Donc, qui dépend d'un ministère ou.
Elle est indépendante. Elle est instituée par une loi. Mmh. La loi du 8 décembre 92. Et cette commission, elle va essayer de voir qui est responsable. Et vous, le responsable du traitement, qui avez failli dans votre mission de sécurisation de mes données, c'est vous qui serez poursuivi. Il y a toute une procédure qui est mise en place. Et les cours et tribunaux sont là aussi pour pouvoir apporter leur contribution pour que tous les responsables de traitement et collecte de données puissent mettre en place un niveau suffisant de sécurisation. C'est pour cela que vous voyez qu'au niveau de l'Europe, on est tellement avancé Malgré qu'on a avancé, on n'est pas à l'abri. Vous comprenez? Je parle de l'Europe, je peux encore aller plus loin. Récemment, aux États-Unis, il y a eu un hôpital qui a été victime. On a soustrait toutes ces données.
Toutes les données des malades
d'un hôpital.
D'un hôpital.
D'un hôpital.
Par des hackers.
Par des hackers qui ont fait, qui ont soustrait toutes et qui ont scripté toutes les données. L'hôpital s'est retrouvé sans données. Mais comment voulez-vous prendre en charge des malades si vous n'avez plus les données?
Si vous n'avez plus les données, ouais.
Vous comprenez?
C'est compliqué.
Double danger. L'hôpital ne sait plus prendre en charge des malades. Deuxième danger, que les malades. S'il y a une malade qui est une autorité, ces données risquent de se retrouver dans la place publique. Alors, en monnaie d'échange, l'hôpital a dû payer une grande rançon pour récupérer ces données. Vous comprenez? Mais en principe, cet hôpital n'a pas mis en place un niveau de sécurisation. Même si c'était élevé, mais il est responsable. Parce que c'est lui qui traite les données et collecte ces données-là.
Voilà, d'où il faut une législation. Mais parfois, ces hackers, on ne sait pas comment les attraper. Parce que la cybercriminalité, les criminels opèrent sur le plan virtuel. Comment les dénicher?
Bah, écoutez, vous savez, on n'est pas à l'abri. Hein. Avec Internet, on n'est pas à l'abri. Lorsque nous acceptons d'aller, lorsque nous permettons que nos données soient traitées d'une manière automatique, il faut savoir aussi qu'il y a des dangers. Mais les hackers, il faut les contrer aussi par des moyens techniques spécifiques. C'est pour cela que lorsque vous prenez l'engagement de traiter, de collecter et de traiter des données à caractère personnel, vous devez être capable d'avoir un niveau de sécurisation élevé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons le cas des RDC, si vous avez un organisme qui collecte vos données et qui traite, et que cet organisme n'a pas mis en place un système de sécurisation élevé, et que vos données sont soustraites, il n'y a pas une législation mise en place contre cet organisme. C'est pour cela que nous encourageons à ce que les autorités mettent en place une législation qui tient et qui prend en compte cette problématique des données à caractère personnel, parce que nous y sommes. Je vous ai parlé des cartes de banque, je parle aussi de nos GSM, vous avez tous un GSM, il y a une puce électronique là-dedans, oui. Vous êtes suivi, vos données sont divulguées.
Même pour la carte SIM, on demande à tout détenteur de la carte d'aller se faire enregistrer les données, il livre ses données personnelles.
Mais attention, lorsqu'on demande aux détenteurs des cartes SIM de se faire enregistrer, il y a une double mission. Sécurité nationale, ce qui est important, on doit savoir qui détient telle chose. Et il y a aussi un problème au niveau de l'État doit pouvoir contrôler les flux de communication. C'est qui est important. Quand on dit contrôler, ça veut pas dire s'ingérer. Il doit contrôler dans sa mission régalienne de protection de la population. Et là, j'aimerais
tout ça, dire, ça doit être coulé dans,
je dois vous
dans
dire,
une loi.
Je vous donne le cas de l'Europe. Il y a un article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui parle de la protection de la vie privée, qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. Mais il peut avoir ingérence des autorités publiques uniquement si cela est nécessaire dans une société démocratique et dans le but de protéger quoi? De protéger la population contre la sécurité publique, protéger pour raison de santé publique, vous comprenez? Ça doit être délimité. Et c'est normal que l'État puisse s'ingérer dans nos données à caractère personnel, mais uniquement lorsque c'est nécessaire et pour des raisons bien précises.
Bien là. Pourquoi est-il important de protéger les données à caractère personnel? Au Capi Service, il reçoit aujourd'hui Maître Dieudonné Tshibwabo-Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles, et Kinshasa et de Kananga. Vous voulez participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Pourquoi est-il important de protéger les données à caractère personnel? Christian Mwanza, vous êtes à Kananga. Adrien Amouyette nous appelle de Lubumbashi et Benjamin de Kalemi. On commence avec Christian Mwanza. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour. Bon, c'est et puis bonjour à l'invité.
Oui.
J'ai une question. Juste pour parvenir à conserver les données à caractère personnel, est-ce que peut nous dire l'invité sur ceux qui voulant s'inscrire, par exemple, sur Facebook ou certains d'autres réseaux sociaux, ils cachent leur vraie identité, c'est-à-dire, ils peuvent mettre un faux nom, un faux numéro, une mauvaise adresse, ordinateur, il a besoin de garder
Oui, Christian avait, oui, la communication s'est détériorée. Oui, on a compris donc, s'enregistrer, s'inscrire sur Facebook en utilisant des, en donnant des informations qui ne sont pas vraies. Merci. Adrien Amouyette de Lumbashi, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour aussi à notre invité, maître Dieudonné Tshibwa-Wambui. Avant d'avoir déposé, mes deux questions, j'aimerais dire, Monsieur Dieudonné, que bon nombre de gens ont été, continuent à être victimes concernant le manque de protection des données à caractère personnel. Alors ma première question, maître, j'aimerais savoir, est-ce qu'ici chez nous en RDC, il y a une loi qui protège vraiment les données à caractère personnel? Et si oui, que dit cette loi? Et ma dernière question, est-ce qu'il y a moyen qu'on et appliquer pour que nos données à caractère personnel sur Internet soient vraiment masquées? Si oui, comment procéder à cela? Merci vraiment.
Bien, Benjamin de Calémy, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, c'est
pas la question. Alors, la communication n'est pas très très bonne, Benjamin. Il y a un bruit pas très intéressant. Bon, peut-être changer de position ou des téléphones, et puis on va vous recevoir tout à l'heure. Maître Dieudonné, vous avez la parole.
Voilà, je vais déjà répondre à la première question. Bonjour Christian, voilà. Vous avez posé une question sur Facebook. Déjà, il faut savoir, il y a un principe. Lorsque vous donnez un consentement pour qu'on puisse traiter vos données, c'est que vous êtes déjà d'accord avec l'organisme qui doit mettre en place le système de traitement, de collecte et traitement de vos données. Mais si vous allez sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure que si vous donnez une fausse identité, déjà une fausse identité, vous sortez même du contexte, parce qu'on ne peut pas vous identifier. Pour que nous puissions parler des données vous concernant, il faut, comme je dis, c'est une information qui permet de vous identifier. Lorsque vous donnez une fausse information, on ne permet pas de vous identifier. Là, vous ne pouvez même pas avoir la protection légale, s'il y en a une, par rapport à vos données à caractère personnel, dans le principe. Mais si vous avez donné votre consentement et que ce sont réellement vos données, l'information vous concernant, alors là, il faut que Facebook, comme tout organisme qui met en place ce système de collecte et de traitement, mette en place un système de sécurisation assez élevé. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Madame Adrienne a souligné, est-ce qu'au niveau de la RDC, il y a une loi? Justement, nous sommes là pour encourager ceux qui doivent le faire, de pouvoir mettre en place une loi. Parce qu'au niveau de la RDC, il n'y a pas de loi. Aujourd'hui, si vous allez devant les cours et tribunaux, parce que vos données à caractère personnel ont été dérobées ou utilisées à mauvais escient, il n'y a pas une loi spécifique.
C'est pour cela que nous charge ces gens des situations.
Tout à fait. C'est pour cela que nous nous encourageons à prendre cela et vraiment à cœur, et de mettre en place une législation spécifique dans le cadre de la protection des données à caractère personnel.
Et qui doit initier ces gens de
voilà, ces gens des choses? Ça peut être une initiative citoyenne. Vous, moi, bien bon. Moi, je ne peux qu'encourager que cela se passe au niveau du Parlement, un organisme indépendant qui dépendra du Parlement, qui doit être institué. Et pour cela, bon, nous sommes les professionnels experts dans la matière. S'il faut donner un coup de pouce, on est là pour essayer de renseigner, pour guider, pourquoi pas. On ne réinvente pas la roue. Il y a des choses qui sont déjà mises en place partout dans le monde. On ne va pas réinventer la roue. Une chose que je souligne. Aujourd'hui, il y a une coopération entre tous les États. Mais pour qu'un État transmette les données à caractère personnel qu'elle contient dans sa base de données nationale à un autre État, il faut que cet autre État mette en place des mécanismes de protection similaires. Mais ce qui n'est pas le cas pour le moment en RDC. Donc si, aujourd'hui, mettons, les États-Unis, ou la Belgique, ou la France, doit transmettre certaines données concernant certaines personnes en RDC, elle ne le fera pas. Parce qu'il n'y a pas un niveau de mécanisme de protection similaire dans le cadre des échanges entre États. Donc, c'est pour cela que nous pouvons encourager les autorités à penser à cela et à mettre en place un organisme et une législation spécifique dans ce secteur.
Par exemple, le cas des passeports. Hein, chaque fois que vous allez à l'immigration, on scanne, on a toutes vos données.
Ah, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, vous posez la question aux concernés. Et bon, je suppose qu'au niveau de l'immigration, ils mettent en place un système de sécurisation pour préserver les données. Mais est-ce que les personnes qui collectent les données au nom des autorités d'immigration ont aussi conscience qu'ils sont obligés de garder leur confidentialité par rapport aux données qui sont en leur possession. Donc c'est tout un débat,
le problème,
ouais. Un débat qui est ouvert. Mmh. Si la loi est mise en place, il y aura un travail de formation de toutes les personnes qui collectent les données pour le compte d'un organisme, surtout au niveau de la confidentialité. Lorsque vous collectez des informations concernant une personne, vous êtes lié. Vous avez un devoir de confidentialité.
On a appris même qu'il y a des ambassades aujourd'hui, parce que j'ai parlé de demande de visa, ça se fait en ligne aujourd'hui. Vous donnez même les numéros votre compte bancaire, et parfois il y a des ambassades qui, d'après les informations reçues, qui vont au niveau des banques pour vérifier si les déclarations en fait sont vraies.
Bon, je vais vous donner le cas des États-Unis. En Europe, les États-Unis ont un système ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Si vous voulez aux États-Unis, à partir de l'Europe, tout se fait par ordinateur. Ce que vous enregistrez, vous donnez, et c'est l'ordinateur qui lui-même peut déjà soit accepter ou vous refuser. Vous comprenez? Il y a un cas d'un journaliste, pour que vous puissiez comprendre, ce journaliste avait simplement mis un article, c'est un journaliste qui s'appelle Mehmet. Il est d'origine kurde, mais il est de nationalité belge. Et dans son article, il disait que non, tous les journalistes ne sont pas terroristes. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme ce sont des systèmes informatiques, ils ont enregistré le mot terroriste à côté de son nom. Lorsque le monsieur, alors qu'il se rendait régulièrement aux États-Unis, est allé pour remplir sa demande de visa aux États-Unis, ça a été refusé. Parce que ses données ont été traitées d'une manière automatique. On a lié son nom au mot terroriste. Alors qu'il faut, même s'il y a un système d'automatisation de traitement des données, il faut qu'il y ait une intervention humaine. Vous avez parlé de nouveau, nous prenons le cas ici au niveau de Schengen. Lorsque vous faites votre demande de visa,
oui.
Il y a pas mal de données qu'on vous demande. Il y a des choses qu'on demande pour la solvabilité. Mais qui donne le droit à la personne qui consulte votre demande de visa d'aller vérifier sur votre compte bancaire que vous avez tel montant? Non. Il ne peut pas aller au-delà de ce que vous lui donnez. Vous amenez une... vous avez votre dernière fiche ou votre
fiche de paie.
Je sais que vous avez comme bordereau sur votre compte ou votre état de compte actualisé. Oui. Vous donnez ça, mais la personne qui est à l'ambassade, parce que qui collecte cette information, qui l'envoie, par exemple au niveau de l'office étranger pour la Belgique, n'a plus le droit d'aller contacter votre banque pour pouvoir connaître quel est le solde actuel. Ça, c'est violer la vie privée des personnes. Et personne ne le dénonce. Moi, j'ai fait un travail là-dedans.
Ce sont des cas qui
J'ai fait un travail là-dedans et je dénonce. Ce n'est pas possible de violer la vie privée des gens comme ça, d'une manière indéfinie, sans que personne ne réagisse. Je donnais mon extrait de compte. Ça, c'est limite là. Pourquoi vous allez plus loin? Et la banque, qui donne la banque l'autorisation de livrer mes secrets bancaires à une personne tierce? Les autorités ne doivent pas laisser comme ça. Il faut qu'il y ait un respect de la vie privée. C'est pas parce qu'on en a fait qu'on ne doit pas avoir notre vie privée respectée. Mmh. J'ai plein de personnes qui me consultent régulièrement dans mon métier d'avocat pour le même problème. Nous avons fourni un extrait de compte bancaire et qu'est-ce qui se passe? L'ambassade est allée après vous se renseigner auprès de votre banque pour pouvoir accéder à votre compte et savoir le montant exact. Allez, on va où là? Il faut qu'il y ait un respect par rapport à la vie privée des gens, parce que les informations bancaires relèvent de votre vie privée. Je vous dis, ça ne se fera jamais à l'étranger, encore jamais en Europe. Si vous appelez aujourd'hui dans la banque, qui que vous soyez, vous n'aurez jamais accès à mes informations bancaires. Jamais. Sauf dans le cadre d'une enquête judiciaire, mais bien réglementée, une procédure bien spécifiée. Mmh. Mais on ne peut pas comme ça accéder aux données bancaires des gens. Vous comprenez?
Oui.
Je peux encore aller plus loin pour les visas, parce que ça c'est mon thème que j'aime beaucoup.
Oui.
En deux minutes. Aujourd'hui, vous pouvez faire une demande de visa. Vos données sont enregistrées. Votre demande est refusée. OK?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes identifié comme ayant déjà introduit une demande de visa et refusé. Vous entrez dans un système qu'on appelle VIS, un système européen. Normalement, le système VIS dit que vous devez conserver. Les données enregistrées doivent être conservées pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, après même 10 ans, lorsque vous allez encore faire une demande de visa, on vous dit il y a 10 ans, on vous a refusé une demande de visa. Pire encore, lorsque vous introduisez une demande de visa et qu'on vous refuse ce visa, vous pouvez introduire un recours, parce que la loi le prévoit. Mmh. Mais dans le système vice, on ne met pas que vous avez introduit un recours. Donc vous êtes fiché dans le noir, mais sans pour autant qu'on dise que au-delà de ce fichage, vous avez introduit un recours. Qui peut même que au niveau en Belgique, il y a un conseil de contentieux, peut-être qu'il a annulé la décision. On met même pas que la décision a été annulée. Donc il y a une tache noire à côté de votre nom. Oui.
Mais c'est ce qui n'est pas intéressant.
Malheureusement.
Jean-Robert nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Oui, je suis Jean-Robert, je suis Mbandaka. Je salue d'abord l'invité. Je suis très content du thème que vous êtes en train d'aborder vos radios Capi, je vous félicite. Ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais savoir, je voudrais que l'invité puisse m'expliquer parce que nous avons, moi par exemple ici, je travaille avec mon ordinateur. Je sais qu'il y a des programmes à distance. On peut manier votre ordinateur à distance. Ça, ce n'est pas seulement pour les arnaqueurs et consorts, mais ce sont des programmes connus. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. On peut être en ligne, en train de travailler, et que l'arnaqueur, par le fournisseur des ordinateurs, a des références de votre ordinateur. Il est en mesure de manier, de manipuler ou de connaître ce que vous êtes en train de faire en ligne. Et il peut monter, par exemple, je parle du cas de la vidéo, il peut monter ou faire quelque chose et mettre en ligne à votre insu, parce qu'il a accès à votre ordinateur à travers des programmes connus. Quelles sont les sanctions? Parce que ces programmes-là sont connus, on achète, on vend, les législations ou des pays ou des autorités connaissent que tel programme existe, mais il n'y a aucune poursuite judiciaire auprès des fabricants ou des fournisseurs de ces programmes, mais ça permet ou ça donne l'accès aux arnaqueurs de pouvoir violer les intimités ou ce que vous appelez les
données à caractère personnel, voilà.
Oui. Quels sont les mécanismes, ce que vous connaissez à travers vos connaissances déjà acquises, quels sont les mécanismes qu'on peut donner au gouvernement parce que vous désirez à ce que le Congo, le gouvernement congolais puisse avoir des mécanismes pouvant protéger des informations privées des gens. Si vous avez un conseil à donner,
c'est lequel? Merci Jean-Robert, maître Didonné.
Voilà, il y a deux éléments à relever dans votre question, monsieur Jean-Robert, dont je remercie. La première chose, il faut savoir que pour aider le gouvernement, je parle l'État, les autorités publiques, il faut d'abord les encourager à instituer un organisme un peu similaire à la commission de vie privée. Pourquoi? Parce que cet organisme verra c'est que toute personne qui veut collecter les données puisse faire une déclaration. Lorsque la personne fait la déclaration, elle dit que moi je déclare que j'aimerais faire les traitements et collecter les traitements de données à caractère personnel. Et quand il y a un problème, par exemple, si cette société ou un organisme fait du phishing ou du hacking parce que prend un logiciel et vous donne le logiciel, c'est un logiciel là, c'est comme un cheval de Troie, parce que c'est cette société qui a fourni, elle sera sanctionnée parce que c'est elle qui est responsable. Vous comprenez? Aucune société sérieuse ne pourra prendre le risque, si elle sait qu'il y a sanction, de mettre en place un système où vous donne le logiciel qui seront faillibles et qui vous apporteront préjudice, parce qu'il y aura une traçabilité. On connaîtra que c'est cet organisme, c'est cette société qui a mis en place ce système. Et dans une société démocratique, de telles personnes, de telles sociétés doivent être sanctionnées. Mais pour le moment, il n'y a rien. Vous comprenez? Alors, faut pas mélanger non plus avec le hacking. Le hacking et le phishing, c'est autre chose. Généralement, aujourd'hui, nous sommes dans la cybercriminalité, mais ça, on aura un jour le temps de débattre. En deux minutes, vous pouvez vous-même ouvrir la porte. Je donne un exemple. Vous êtes sur votre PC, vous êtes en train de travailler, vous êtes sur ordinateur, vous recevez un mail. Vous connaissez ni l'origine, vous connaissez... vous ouvrez ce mail parce qu'il y a un petit mot, on vous demande, on dit Microsoft par exemple, généralement c'est ce qui se passe, vous ouvrez, et là vous pouvez à vous-même ouvrir la brèche. Donc une personne qui peut se trouver ailleurs accède à votre ordinateur, peut même prendre le contrôle de vos données, de votre ordinateur, et commencer à faire de n'importe quoi. Donc là vous-même vous avez accédé à vous avez donné l'accès. Oui. Donc il faut être prudent. Quand vous allez sur Internet, soyez toujours prudent.
Un bon conseil,
n'ouvrez pas n'importe quel mail. Regardez si le mail est bien sécurisé, regardez ce qui est donné, regardez le site qui est donné, est-ce qu'il y a un cadenas à côté, est-ce qu'il y a HTS, est-ce qu'il y a S à la fin, vérifiez, il y a des mécanismes, moi je ne vais pas donner la leçon maintenant, des mécanismes de protection que vous pouvez vous-même déjà prendre le devant pour éviter que vous soyez victime.
D'accord, alors maître Dieudonné, on comprend qu'aujourd'hui il est impérieux d'avoir une loi qui protège les données à caractère personnel.
plus qu'impérieux.
Plus qu'impérieux.
Plus qu'impérieux, il faut mettre en place un organisme de protection des individus, des gens, qui prend en compte les données à caractère personnel qui font partie de la vie privée de tout un chacun. Et chacun a droit au respect de sa vie privée.
Bien, merci Maître Dieudonné Tshibwabou Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles, Kinshasa et des Kananga.
Je vous remercie.
À la prochaine.
À la prochaine, merci.